bienvenue sur Génération Liée, un podcast de Peuple et Culture. Pour faire simple, Peuple et Culture, qu'on appelle aussi PEC, c'est un groupe d'associations réparties partout en France. Notre but ? Promouvoir une éducation qui ne s'arrête pas à l'école, mais qui continue tout au long de la vie. Chez PEC, on pense que tout le monde devrait pouvoir exprimer ses opinions et être acteur et actrice de la vie démocratique de manière égale. Pour ça, on propose aux gens de développer leur esprit critique à travers des activités éducatives, culturelles, artistiques et même des rencontres de jeunes. Ces idées sont au cœur de Peuple et Culture depuis sa création, il y a 80 ans, quand d'anciens résistants ont misé sur l'éducation pour reconstruire la société après la guerre. Ce podcast vise à interroger différents sujets, comme la montée de l'extrême droite, l'interculturalité, l'inclusion, la place des femmes et les enjeux écologiques qui portent depuis longtemps et portent encore les travaux de nos assos. Ainsi, des personnes de tout âge, de toute génération se succéderont au micro pour échanger sur ces sujets parfois complexes, en partageant leurs points de vue et leurs expériences. Rejoignez-nous pour échanger et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bonjour, je suis Sonia, en service civique à l'Union Peuple et Culture, et aujourd'hui, malgré les fortes chaleurs qui nous obligent à enregistrer avec les fenêtres ouvertes, Marianne et Nikos m'ont rejoint pour échanger ensemble autour de la vie associative. Ainsi, nous allons aborder comment ce monde associatif a évolué, comment le contexte économique, social et politique actuel affecte les libertés associatives, et quelles pistes de lutte peuvent poursuivre les associations pour les libertés associatives. Donc déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus en détail pour les auditeurs et présenter également les structures auxquelles vous appartenez ?
Donc, je suis Marianne Langlais, je travaille au collectif des associations citoyennes. Si je me présente en quelques mots, moi j'ai été pendant 30 ans journaliste spécialisée sur les questions santé, sociale et dans des médias indépendants. Et j'ai été aussi rédactrice en chef du journal Lien Social qui était à destination principalement des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. Je viens, on va dire, de ce monde du médico-social et j'ai rejoint le collectif des associations citoyennes en 2022. Que j'ai rejoint en tant que salariée, parce qu'en fait, j'étais compagne de route, on va dire, du collectif depuis longtemps, puisque je faisais partie du groupe de travail qu'ils ont constitué à peu près dès le départ de leur naissance, c'est-à-dire en 2010, le collectif est né en 2010, le groupe de travail sur la marchandisation des associations. Parce que c'est là-dessus que s'est créé le collectif sur la marchandisation des associations, et il regroupe ce collectif des associations de secteurs très très différents, des petites, des grosses d'ailleurs, des réseaux. Ça va du planning familial à la CIMAD qui accompagne les personnes exilées, enfin qui défend les droits des personnes exilées, en passant par l'UFIS qui est une union des structures d'intervention culturelle. Voilà, enfin c'est des secteurs très divers et le principe c'est de justement décloisonner tout ça et essayer de penser les facteurs qui affaiblissent le monde associatif, mais aussi les vecteurs de son renforcement. Mais ça, j'y reviendrai peut-être. Mais voilà en quelques mots pour me présenter.
Donc, quant à moi, je m'appelle Nikos ou Nicolas Prikas. On peut trouver des textes avec les deux prénoms. Je suis sociologue de formation avec un doctorat de sociologie. J'ai travaillé pendant 8 ans à l'Institut national de l'éducation populaire à Marly-le-Roi autour des questions de la vie associative, travailleurs sociaux et autres. Et puis depuis 1987, j'ai été conseiller d'éducation populaire et de jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports. J'ai été nommé à ce titre à la direction départementale de l'Isère. Et j'ai fini ma carrière donc à Grenoble en 2019. Donc retraité depuis, j'ai pu reprendre tout naturellement des engagements bénévoles. Et j'étais président du centre de formation Codevad, qui est un centre qui forme des animateurs et d'autres professionnels de l'action sociale et du développement local. Et c'est à ce titre que nous avons adhéré à l'Union Peuple et Culture, que je connais depuis très longtemps.
Merci beaucoup. Donc on va reprendre sur du coup l'importance du tissu associatif vu que j'avais vu que tu voulais en parler avant que justement on aborde plutôt l'évolution du monde associatif et les libertés associatives et ce qui peut les restreindre ou comment on peut les renforcer. Donc voilà, je te laisse la parole.
Oui, donc je pense que ça me plaît de commencer par, bien sûr, qui semblent être des rappels, mais à force de ne pas rappeler des choses qui sont essentielles, elles peuvent devenir invisibles. Et donc on parle vraiment de la vie associative, à mon sens, de quelque chose d'essentiel pour tout ce qui est de l'existence même de la société. Une société qui n'arrive plus à associer, à mettre ensemble, à construire du commun, à construire de l'envie d'appartenir, à occuper des espaces qui n'appartiennent à personne et à tous, ce n'est plus une société. Et c'est justement, il me semble, que le fait associatif, le fait de s'associer, se pose au cœur même de cette première nécessité. Malheureusement, on considère ça comme si c'était quelque chose qui sera là tout le temps, et on voit bien que ça peut ne pas être là tout le temps. Et j'ai bien aimé la phrase d'un appel du CNAGEP dernièrement qui parle de l'ossature invisible de la société. Il y a quelque chose qui est de cet ordre pour la vie associative, au-delà de tout ce qu'elle peut offrir comme service, comme idée, etc. Pour moi, le fait même qu'elle offre la possibilité de s'associer, la possibilité de faire société et de faire monde, est quelque chose d'irremplaçable quant à son importance et sa valeur.
C'est exactement de cette manière que nous, on entend le terme de association citoyenne. C'est-à-dire que quand on parle des associations, au collectif des associations citoyennes, on ne parle pas des associations comme de boutiques. On parle des associations comme des lieux de relations, de liens, de soins, d'éducation populaire. C'est vraiment des lieux où s'inventent justement d'autres manières de faire et qui sont justement des lieux où s'inventent aussi d'autres formes d'économie possibles, basées sur le bénévolat, la réciprocité, la coopération. Et c'est ce tissu-là qui est absolument, effectivement, essentiel aujourd'hui. Et c'est parce qu'il est essentiel et parce que, justement, il représente des lieux où on peut penser d'autres façons de vivre ensemble et de faire le monde et d'autres relations au vivant, qu'il est à ce point attaqué par ce tournant qu'on peut appeler de réactionnaire, d'autoritaire, voire un tournant qui va aujourd'hui vers l'extrême droite. Et en fait, au collectif, donc on travaille cette question du scénario de l'affaiblissement des associations à partir de 4 vecteurs et 4 transformations des politiques, on va dire, ou du regard de la société et des politiques publiques envers les associations. Je vais vite les lister, ces 4 vecteurs. Donc on a d'abord la marchandisation. Marchandisation, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui pousse les associations à s'inscrire dans des logiques de marché, à copier, à avoir des formes d'isomorphisme vis-à-vis des entreprises privées lucratives, donc à reprendre les pratiques, à reprendre les modes de management des entreprises privées lucratives, parce que ces modes de management, ces pratiques, ces façons de voir le monde sont considérées comme plus légitimes et donc plus entendues par les pouvoirs publics d'aujourd'hui, mais ça pourrait changer, hein. Donc ça, c'est le premier vecteur d'affaiblissement, la marchandisation. Le deuxième, c'est la managérialisation, qui est une poursuite dans les techniques, dans les façons de faire des associations, c'est-à-dire aussi ces carcans des appels à projets, voire des appels d'offres qui, là, sont des marchés publics qui enferment complètement les associations dans des logiques de marché. Le troisième, c'est l'instrumentalisation. C'est effectivement, on voit une transformation des financements associatifs. On est passé d'une politique effectivement ascendante où les associations, à partir d'une rencontre de 2 personnes ou de 3 ou de 4 sur un besoin, une réalité, une envie, un désir, une volonté de faire quelque chose ensemble ou de défendre un droit ou d'en inventer un nouveau ou de révéler un problème écologique caché ou d'aller lutter contre une grande entreprise qui fait n'importe quoi. Bon, bref, il y a 1000 façons de faire des choses ensemble. On partait de cette politique ascendante qui, à partir de ses besoins, allait chercher de l'argent public Et puis aujourd'hui, on est vraiment dans une logique complètement descendante, où c'est les appels à projets, voire les appels d'offres, qui structurent la réponse associative, et donc on est vraiment dans une perte de la capacité d'interpellation des associations, voire d'instrumentalisation, puisque pour nous, c'est aussi un corollaire de l'affaiblissement des services publics, et un report sur les associations via les délégations de services publics, des missions de services publics, avec moins d'argent, donc moins bien fait. Enfin voilà. Donc pour nous, ça c'est vraiment de l'instrumentalisation. Et dernier niveau de cette présentation, là où on est un peu aujourd'hui, c'est justement la répression des libertés associatives. La répression n'arrive pas maintenant, je sais pas, avec Emmanuel Macron, et c'est pas une bascule radicale d'aujourd'hui, c'est un continuum qui fait que la capacité d'interpellation des associations n'est pas reconnue, n'est plus reconnue, n'est plus entendue, et qu'aujourd'hui on considère que l'argent public doit s'accompagner d'associations qui se tiennent sages et qui ne font pas remonter les problématiques de terrain et qui sont transformées en prestataires de services, en opérateurs qui doivent répondre à des appels à projets et des appels d'offres construits par les politiques publiques. Et bon, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur les facteurs de renforcement, mais en fait, en corollaire de chacun de ces facteurs, on met en face des possibilités de voir les choses autrement et de faire les choses autrement.
Oui, je crois que Marianne a bien décrit l'évolution récente concernant les rapports de la vie associative avec les institutions au sens large. Moi, je voudrais peut-être dire que dès le départ, quand même, de la construction historique et de la lutte parlementaire et de la société pour voter la loi 1901, ça n'a jamais été très clair. C'est quelque chose qui a été, j'allais dire, toléré et obtenu à l'arraché au Parlement de ce statut-là, mais que l'institué de la société française a toujours eu un regard méfiant, quand même, par rapport à cette nébuleuse bouillonnante et foisonnante, face à cette capacité d'être près du terrain, de sentir les choses, de mobiliser dans l'ordinaire et le quotidien des gens, les pouvoirs publics s'est méfié de cette puissance, de cet élan qui était naturellement là, qui ne demandait au départ pas grand-chose, puisque tout était dans le militantisme et le bénévolat. Dès le départ, on était entre la méfiance ou bien, j'allais dire, une bienveillance avec un arrière-plan d'instrumentaliser. Il n'y a jamais eu vraiment une acceptation. On était quand même, depuis le départ, dans ce contexte. Et là, comme dit justement, et comme le CAC l'observe de manière pertinente, il y a eu cette arrivée vraiment libérale et économiste et de technicité managériale qui est venue épauler presque le mouvement de crainte des institutions pour là complètement les envelopper dans un paquet économiste comme ça et les dénaturer complètement de leur force, de les éloigner de leur force première. Et c'est vrai que c'est savamment monté et si on voit comme ça l'évolution, j'en veux pour preuve, c'est autant que fonctionnaire, je faisais partie des formateurs pour les directeurs MJC sur le management, tous les concepts qu'on a instillés et diffusés petit à petit au monde associatif pour presque le faire oublier de ce qu'il était et d'où il venait pour, entre guillemets, le rendre plus performant, le rendre plus légitime, afin qu'il soit bon pour remplir les cases pour de la reconnaissance ou de la visibilité, toutes ces choses-là. Elles sont assez puissantes. Il y a un double langage par rapport au mouvement associatif. Personne n'ose affronter directement la position « nous sommes contre, c'est dangereux, etc. » Personne, mais tout le monde récupère. Et ça, il faut quand même qu'on le sache.
Je suis complètement d'accord. Je trouve que quand même, on a passé une petite étape ces dernières années. C'est-à-dire que quand tu dis que personne n'est contre et que tout le monde accepte.
Oui, oui, oui.
Je trouve que ces dernières années, est plutôt dans... plus personne n'accepte rien du tout. Et je voudrais peut-être donner un exemple qui pour moi montre bien l'évolution, parce qu'effectivement, je te rejoins complètement, ça a toujours été une lutte, de toute façon, tout ce qui vient conforter les droits, c'est des conquis sociaux, c'est pas des acquis sociaux, c'est toujours une lutte et c'est toujours une bataille, on le voit aujourd'hui particulièrement sur tout ce qui concerne le droit des femmes, des minorités, on le voit tous les jours en ce moment, comme on peut avoir un retour de bâton extrêmement puissant et fort. Donc je voudrais prendre l'exemple de la CIMADE, qui pour moi montre bien comment les rapports se sont transformés entre les pouvoirs publics et les associations jusqu'à les faire parfois disparaître. Donc la CIMADE, Association de Défense des Droits des Exilés, lorsque les centres de rétention ouvrent dans les années 80, permet l'entrée dans ces centres de la CIMADE, qui est la seule association à l'époque qui rentre dans tous les centres de rétention et qui est là en défense des droits des personnes retenues, mais qui aussi organise dès le départ un regard citoyen dans ces lieux de privation de liberté, en sortant tous les ans un rapport qui vient raconter ce qui se passe dans ces lieux. Et donc qui permet à la société de savoir, enfin si elle le veut, de savoir ce qui s'y passe. Moi j'étais à l'époque journaliste, donc je me souviens très bien de ces rapports qui étaient vraiment des mines d'or pour avoir un regard sur ces lieux-là. Et puis évidemment c'est toujours attaqué, la présence de cette association a toujours été plus ou moins remise en cause. Et puis en 2009, Brice Hortefeux décide de lancer un marché public sur l'intervention de ces associations dans les centres de rétention administrative. Donc met en concurrence la CIMADE avec d'autres associations. À cette époque, la CIMADE sort une tribune dans Libé où elle écrit, en 2009, « Cette mise en concurrence des associations par le gouvernement va se traduire par des missions éclatées et morcelées, par une absence de politique coordonnée et de vision globale de ce qui se passe dans les centres de rétention administrative et par le choix de prestataires qui seront les moins critiques et donc les moins efficaces dans la défense des droits des étrangers. » Et c'est effectivement, on peut le dire, ce qui s'est passé, mais c'était encore trop, puisque dans les derniers marchés publics, c'est-à-dire en 2021, les marchés publics c'est tous les 3 ans, le dernier en 2021, il y a eu une nouvelle clause qui est apparue dans le cahier des charges, puisque les marchés publics, il y a des cahiers des charges extrêmement précis qui contraignent extrêmement les associations qui répondent à ces marchés publics, et dans le dernier appel d'offres, il y avait une clause qui exigeait des associations de ne plus faire ressortir ce dont elles étaient témoins dans ces centres. Donc on voit là comment on a, à travers à la fois des attaques politiques, parce qu'elle n'a pas arrêté d'être attaquée, ces associations et la CIMADE, on a vu les dernières attaques de Darmanin, de Retailleau sur la CIMADE, et les processus de marchandisation, on voit comment les deux se rejoignent pour finalement étouffer l'interpellation associative. Mais c'était encore trop, parce que la dernière loi qui est sortie et qui a été votée par le Sénat et qui attend de passer à l'Assemblée nationale prévoit la sortie complète de toutes les associations des centres de rétention administrative pour être remplacées par des fonctionnaires de l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Donc je trouve que cet exemple, il est extrêmement parlant pour montrer comment attaques politiques et processus de marché viennent finalement étouffer la capacité des associations de défendre les droits des personnes et d'interpeller sur ces droits.
Là, tu me fais penser à quelque chose, un autre phénomène que j'ai constaté durant toute ma carrière. C'est un mouvement de municipalisation de pans entiers qui étaient occupés auparavant par la vie associative, par des services directs de la municipalité. Et je trouve que là, je parle plutôt en tant que témoin, parce que je l'ai vécu, cette idéologie absolument fausse en fait, pour dire que on récupère ce qui se faisait par les associations parce que ça nous coûtera beaucoup, beaucoup moins cher, ça sera de meilleure qualité, entre guillemets, les services, etc. Et donc on a vu un peu partout en France des pans entiers de prise en charge, de choses autour de la jeunesse, de l'enfance ou dans d'autres domaines, complètement municipalisés. Quand je suis arrivé à Grenoble en 1987, le service de la jeunesse de la ville de Grenoble, il y avait 2 personnes. Et quand je suis parti, ils sont 75. Donc, avec de plus en plus, en fait, dans les différents quartiers, des maisons de quartier municipaux qui remplacent les associations de jeunesse ou de l'enfance, du loisir, des anciens centres sociaux, etc., dans tout type de quartier. Et donc, avec, je crois, vraiment quelque chose qui est de l'ordre de une espèce d'arrogance qui était, moi, je parle autant que témoin, en disant, ben maintenant que c'est municipal, on va enfin pouvoir faire un travail social, enfin faire de l'éducation populaire. Et ça, c'est très complexe et très difficile à accepter, bien sûr. Surtout que les fonctionnaires municipaux ont été, entre guillemets, sont venus du tissu associatif. Et d'ailleurs, dont beaucoup, c'était des gens que j'ai formés en tant que formateur sur le terrain et qui, à partir d'une expérience associative, passent le concours et se transforment complètement dans un discours anti-associatif en disant maintenant on va faire de l'éducation populaire dans les quartiers populaires ou autre. Et ça, c'est un pendant qui est, à mon sens, à rappeler aussi.
Nous, ce qu'on observe aussi, c'est que dans certaines collectivités territoriales, et ça pour nous, c'est un peu le facteur de renforcement face à l'instrumentalisation ou à la répression des libertés associatives, c'est, on pourrait les qualifier presque de collectivités territoriales refuge, de villes refuge ou de régions un peu refuge, où il y a une vraie volonté politique d'essayer de construire un contexte de confiance pour les associations. Alors, face à ce contexte aujourd'hui national qui est vraiment un contexte de défiance, notamment avec le contrat d'engagement républicain introduit par la loi dite séparatisme de 2021, qui est l'aboutissement d'un climat de défiance extrême. Et donc, face à ça, on sent vraiment des collectivités qui ont, à l'inverse, essayé de construire un climat de confiance. Je pense à la ville de Rennes, par exemple, qui a essayé vraiment de travailler à repenser, à retravailler, à remettre au travail la charte des engagements réciproques, qui peut être un outil de travail entre collectivités territoriales et associations pour penser ensemble comment on fait pour justement échapper à la fois au municipalisme complet, à des climats de défiance totale. Donc il y a aussi ces lieux où ça se travaille et c'est important de les observer, de les regarder et de voir comment ça peut vraiment se construire pour essayer d'échapper à ce processus qui est quand même extrêmement dangereux pour les associations.
Que vous pouvez un peu détailler justement comment on est passé de ce que ça implique sur les modes de financement, ce passage de la logique ascendante à la logique descendante.
Ben, ce qu'on voit, c'est que la subvention de fonctionnement, entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les budgets associatifs est passée de 34% à 20%, et la part de la commande publique est, elle, passée de 17% en 2005 à 29% en 2020. Donc on voit bien comment on est passé de cette modalité de subvention essentiellement à une modalité de commande publique et comment ça transforme, comme on vient de le dire, le regard non seulement des pouvoirs publics sur les associations, mais aussi de l'ensemble de la société. Et nous, un des éléments d'explication de cette transformation, c'est aussi le contexte du marché unique européen qui impose qu'on ait des règles communes dans toute l'Europe et donc qui impose un marché unique européen dans lequel il n'y a pas de statut associatif. L'association est une entreprise comme une autre, est perçue comme une entreprise, et à ce titre, elle doit se plier à la règle d'or de ce marché unique européen, qui est que la concurrence doit être libre et non faussée. Et à partir de là, la subvention peut être perçue comme venant fausser cette concurrence. Donc, pour se protéger de problèmes avec les institutions européennes, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics en général, préfèrent passer par de la commande publique plutôt que par de la subvention. Donc ça, c'est une des explications qui explique ce recul. La deuxième explication pour nous, c'est aussi l'intensification de ce qu'on a appelé la nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui est pour nous une déclinaison technique d'une pensée néolibérale, appliquée non seulement aux services publics, mais par ricochet aux associations, et qui installe une approche des financements par une logique de performance, de remontée d'indicateurs, de travail par objectif. Tous les appels à projets, les appels d'offres sont construits un peu dans cette logique productiviste dans laquelle on est tous et toutes embarqués pour survivre. Tout ça amène beaucoup d'associations, ce contexte un peu de méfiance, ces transformations des financements, à se dire ben il faut aller vers de l'argent privé. Et toute la question, et peut-être qu'on y reviendra ensuite, est de savoir est-ce que cet argent privé est vraiment la solution, est-ce que ça permet vraiment de développer ces lieux de liens, de soins, voilà, de construction du commun. Moi, je n'en suis pas du tout convaincue.
Moi, je pense être convaincu que ça n'apportera pas la liberté escomptée ou bien énormément d'une bouffée d'oxygène ou quoi que ce soit, mais ça peut, à mon sens, ça accélérera le processus dont tu décris. Ce que tu viens de dire me fait penser, et je pense que vous le traitez beaucoup dans les travaux du CAC, c'est justement cette acculturation énorme qu'il y a eu depuis le début des années 80 avec cette idée de l'appel à projet et la domination du concept du projet partout. Qui, à mon sens, il y a un avant et un après. Moi, je l'ai vu professionnellement. Il y a eu l'avant où il y avait justement des lieux de discussion pour une attribution d'un fonctionnement global, etc., où on discutait sur quelques grands objectifs, positionnement. Il y avait du politique, même avec les institutions. Et on s'est complètement déplacé dans un lieu qui n'est pas ni associatif, ni institutionnel, etc., mais il est complètement libéral et qui, à mon avis, exile à la fois les associations et l'État ou les municipalités dans un espace qui est l'espace où il fallait être, parce que c'était l'espace auréolé de performance, de technicité, d'efficacité, d'efficience, etc. Et tout le monde essayait d'habiter et d'être dans cet espace en lâchant presque sa culture d'origine. Non seulement le projet est un cadre très restreint, mais en plus, il s'accompagne d'un langage bien spécifique. Donc, il y a une acculturation là complète sur la manière de s'exprimer, la manière de traduire le réel de l'association pour qu'il soit entendable et qu'il rentre dans les cases d'un dossier. Et vraiment, la pensée libérale a colonisé le monde entier et toutes les strates un peu de la pensée et du langage. Et j'ai vu vraiment des personnes au bout de quelques décennies de ne plus pouvoir dire ce qu'était leur association en dehors de ce nouveau langage, de ce nouvel alphabet qu'ils ont appris plus que les autres, parce qu'il fallait être encore plus, entre guillemets, performant que les gens qui viennent du privé. Je me souviens des commissions d'attribution pour donc donner de l'argent par rapport à des projets où on faisait venir les responsables associatifs pour qu'ils nous expliquent un peu le projet, etc. Mais c'était un langage vraiment que n'importe quel banquier ou dans une agence d'audit autre, etc., aurait tenu. Et donc là, vraiment, il y a eu un recouvrement. Et tu parlais d'isomorphisme, une espèce d'imposition d'un langage, et à mon avis, énormément de mal-être associatif à cause de ça, à savoir une non-reconnaissance de son propre vécu, de ses propres engagements, où il fallait presque se trahir pour émerger dans les appels à projets qui se succédaient. Moi, je lisais à peu près une centaine de projets par an pendant mon fonctionnement et les visites et les contrôles que j'allais faire sur le terrain. C'était, et quand je disais à la personne, mais enfin, ce que vous me racontez là, parlez-moi un peu de la vie dans le centre avec les enfants, avec la nature, les arbres, etc. Ils étaient incapables. C'est-à-dire qu'on a créé des techniciens pour des fonctions vraiment qui pouvaient être remplies dans n'importe quel secteur. Et ça, c'est, je crois, une transformation considérable. Il faudrait presque une réacculturation de son âme associatif, tellement qu'on est rentré, il me semble, loin dans l'exil un peu de la pensée libérale. Il y avait une telle déconsidération de ce vécu, qui est vraiment le vécu associatif, et il commençait à switcher et tourner sur un langage techniciste qui intéressait personne, mais il pensait qu'il n'y avait que ce langage-là pour obtenir les subventions.
Si je peux prolonger cette pensée-là, parce que je trouve que cette notion de projet, on a vraiment intérêt à la travailler, à la tordre, à la penser, parce que venant du médico-social, enfin, témoin de ce secteur-là en tant que journaliste pendant 30 ans, j'ai aussi observé comment cette notion de projet s'inscrivait dans les pratiques des travailleurs sociaux et comment cette notion de projet a été imposée. Alors maintenant, par exemple, chez les travailleurs sociaux en protection de l'enfance, on demande à un enfant placé d'avoir un projet de vie. On demande à une famille en difficulté d'avoir un projet de vacances. On demande à une famille qui doit être hébergée d'urgence d'avoir un projet, comment elle se voit s'inscrire dans ce parcours d'hébergement. Enfin, une lettre de motivation pour rentrer dans les structures d'hébergement. On demande à ces personnes des exigences que, évidemment, on ne demande pas aux personnes qui ont les moyens. Et cette notion de projet, elle est déclinée à ce point-là dans le secteur médico-social. Pour moi, elle est une maltraitance. Et pas que pour moi, d'ailleurs. C'est le vécu de plein de travailleurs sociaux qui vivent ça de manière extrêmement douloureuse. Parce que, effectivement, demander un projet de vie, construire à des personnes qui sont dans ces situations-là, c'est extrêmement maltraitant. Voilà. Donc, cette pensée-là, elle se décline à plein de niveaux. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à essayer de le déconstruire parce qu'on est dans une logique industrielle, en fait. C'est le projet, c'est comment faire quelque chose pour qu'il ne coûte le moins possible. Donc on le cadre, on pense son coût et on voit éventuellement ce qu'il implique comme coût évité pour l'État. Et c'est sous l'angle de ce coût-bénéfice qu'il est construit le projet, cette notion. C'est des choses qu'il faut vraiment analyser et lutter contre. Il y a un travail de la SCOP Le Pavé à l'époque qui avait fait un travail sur le projet me tue. Je crois que ça s'appelle comme ça, un petit fascicule qui est très intéressant. Et c'est justement pour essayer de comprendre toutes ces logiques de marché et ces logiques managériales qui nous traversent qu'on a voulu ouvrir cet espace de l'observatoire citoyen de la marchandisation des associations, qui est un espace où se croisent à la fois des savoirs d'expérience des associations, des savoirs académiques de chercheurs et chercheuses qui nous accompagnent, d'ailleurs qui peuvent se croiser complètement, d'ailleurs ces différents savoirs, pour essayer de rendre visible, lisible, mieux comprendre nous-mêmes ces logiques de marché qui nous traversent.
Est-ce que vous vouliez répondre un peu sur cette professionnalisation, aussi peut-être du secteur de l'éducation populaire ?
Sur la professionnalisation, en effet, c'est quelque chose qui est une chose dans l'évolution de la vie associative, quelque chose de très important qui a eu lieu. Dans le domaine de l'éducation populaire, les premiers salariés qu'on a pu trouver, c'était en Bretagne ou à Rennes, juste après la guerre. Et souvent, la première génération des professionnels, c'était des anciens militants. C'était des militants professionnels, comme on les a appelés. Donc, qui connaissaient l'association, qui étaient même issus. Petit à petit, les choses, sont devenues ce que nous connaissons avec des vrais métiers dans le social, médico-social, l'éducation populaire, avec des diplômes d'État. Et donc là, pour moi, c'est peut-être aussi la richesse du fait associatif, d'être maintenant presque condamné, mais dans le bon sens du terme, à faire coexister des dissemblances comme ça, qui sont réelles et nettes, c'est-à-dire entre quelqu'un qui vient juste donner de son temps quelques heures et quelqu'un qui travaille, qui fait toute sa vie, etc. Comment ces personnes peuvent cohabiter, peuvent apprendre à se parler, comment ces deux groupes comme ça peuvent se retrouver sur une vision de l'association, comment elles peuvent construire de l'action commune. il y a certainement quelque chose qui est beau au niveau de la dynamique associative. Moi, après, bien sûr, il y a toutes les variantes. Il y a des associations qui sont où il y a presque que des professionnels et les bénévoles sont juste une illustration, etc. Et d'autres où il y a quand même une espèce de cohabitation dynamique, etc. Donc ça, c'est tout de même la bonne chose. Après, l'autre, c'est ce qu'on a appelé la reconnaissance un peu du monde associatif par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'une association qui n'a que des bénévoles, elle est moins dans les radars quand même, à la fois des logiques même marchandes et des logiques institutionnelles. Payer un salaire avec toutes les charges, il y a un avant et un après hein, pour une association. C'est colossal le saut. Et à partir de là, bah, des logiques de production, entre guillemets, de recherche systématique des fonds, etc., bah, peut provoquer des déviations et des dérives. Mais j'ai pas envie de diaboliser, malgré tout, parce que j'ai vécu des belles choses avec vraiment des dynamiques où professionnels et bénévoles peuvent s'entendre. Simplement, j'aimerais juste trouver des mots pour parler de ce que le bénévole apporte par rapport au professionnel. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'espace maintenant, puisque c'est le professionnalisme qui a recouvert tout l'espace associatif. Il me semble qu'il n'y a plus d'espace et de visibilité pour bien considérer et bien voir ce que le bénévole apporte. Entre la compétence du professionnel qui est hyper cadré avec les logiques qu'on connaît et, je dirais, une intelligence du bas du bénévole qui est diffuse, confuse, qui est une œuvre de toute une vie, qui est une œuvre d'enracinement, etc. J'aime bien ce mot « intelligence du bas » contre les compétences des professionnels. Mais cette intelligence du bas, elle est invisible, elle est déconsidérée, et elle est à travailler. Et pourtant, elle existe. Et si on est dans des systèmes et des nouvelles dynamiques ascendantes, il serait bien qu'on puisse recollecter un peu cette intelligence ordinaire des bénévoles du bas, de leur vécu à la fois associatif et autant que citoyen.
Je voulais effectivement revenir sur le monde associatif. C'est 90% d'associations qui n'ont pas de salariés et 10% d'associations où il y a des salariés, et c'est de ces associations dont on parle quand on parle de tous ces processus-là. Donc c'est en fait une petite minorité. Et quand on regarde, encore une fois, les chiffres, on voit qu'il y a une dynamique associative extrêmement forte en France, avec 60 000 associations créées par année, c'est la dernière année, là. Plein de petites associations. Et par contre, aussi, dans un contexte concurrence tel qu'on vient de le décrire, des très grosses associations. Mmh. Et en fait, une perte un peu des associations de taille moyenne, c'est Viviane Tchernonog qui le montre dans le paysage associatif, donc une perte un peu de biodiversité associative avec ces mastodontes associatifs où finalement il y a souvent beaucoup de professionnels et peu de bénévoles. Et on peut voir comment certaines de ces associations accompagne ces transformations de financement, accompagne, on va dire, le tournant néolibéral, le conforte même avec la notion d'entrepreneuriat social. Alors ça, c'est aussi un des courants qu'on essaye de décrypter dans nos deux rapports. L'entrepreneuriat social, ça apparaît en France dans les années 2000. Derrière ce terme, c'est un terme qui ne recouvre rien juridiquement, mais il y a derrière des associations, des entreprises ESUS, des entreprises de différentes sortes, des start-up à impact. Et cette notion, en fait, elle nous vient des États-Unis, là aussi, du réseau Ashoka. Et c'est cette idée qu'un entrepreneur, avec des modes de gestion et des pratiques de l'entreprise privée lucrative, peut résoudre des problématiques sociales et écologiques. Donc c'est cette idée souvent d'un homme seul qui, de par son expérience, de par l'accumulation du capital qu'il a pu avoir, va mettre de l'argent pour résoudre une problématique sociale ou écologique. Et ça invisibilise, ça efface la vision collective de l'association, aussi la lenteur de l'association, la nécessité du temps long, de la création de liens. C'est l'idée que c'est cet appel à l'innovation innovation permanente aussi, de l'entrepreneuriat social revendique beaucoup cette notion d'innovation, et on voit donc comment cette montée de l'entrepreneuriat social aujourd'hui est très puissante en France. Le chef de file de l'entrepreneuriat social, c'est le groupe SOS, qui est un groupe qui est extrêmement important puisqu'il recouvre à peu près tout le champ associatif. Et derrière le groupe SOS, c'est essentiellement énormément d'associations. Donc ce terme, il invisibilise aussi et il neutralise politiquement la portée associative. Et juste pour terminer, puisqu'on parle de marchandisation dans l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations, mais on parle aussi de financiarisation. Et ce terreau de l'entrepreneuriat social, qui donc s'installe à partir du début des années 2000, permet l'arrivée en France dans les années 2014, 2015, 2016 de ce qu'on appelle l'investissement à impact, qui là pour nous est de l'argent privé, qui porte des investisseurs privés, qui porte le récit que avec des bons mécanismes financiers, des bons modes de gestion, on va pouvoir faire du bien, mais aussi du profit. Et donc l'investissement à impact, pour nous, c'est vraiment le modèle de financiarisation de tous ces secteurs, du lien, du soin, qui est en train d'arriver en France, qui est en train de s'installer. Et il y a de l'argent privé, et pas qu'un petit peu, qui se construit avec des fonds à impact, des investisseurs à impact, des start-up à impact, des prêts à impact, qui s'installent aujourd'hui en France et qui provoquent une financiarisation des associations. Juste pour revenir un peu en arrière, je voudrais juste dire que il y a les associations, mais il y a aussi tous les mouvements informels qui se sont pas structurés en associations. Et on voit comment aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements qui se construisent hors de l'associatif, je pense notamment au soulèvement de la terre, qui sont des nouvelles façons aussi de se mobiliser, de militer, et qui inventent des nouvelles façons de faire. Je vous signale un film qui va sortir au mois de début d'année prochaine, qui s'appelle Les Soulèvements, et qui donne à voir toutes ces nouvelles manières de se mobiliser et de militer.
Donc on va partir sur les perspectives futures donc pour le monde associatif, sur la défense des libertés associatives et le possible renforcement des associations.
Dans notre deuxième rapport, on poursuit le décryptage des processus de marchandisation et de financiarisation, mais on ouvre aussi des pistes possibles de démarchandisation. Déjà, un préalable pour nous, c'était le décryptage de ces processus de marchandisation et de financiarisation, ça nous permet de reprendre pourvoir sur des processus qui peuvent être complètement intégrés, invisibles, pas conscients. Par exemple, cette notion de projet dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour nous, le savoir, c'est du pouvoir. Donc, de les décrypter, de réussir à les comprendre, c'est déjà une première étape. Ensuite, autre élément pour nous important, c'est de reprendre pouvoir sur cette notion d'argent public. Comment on reprend la bataille de l'argent public, puisque aujourd'hui, ce qu'on voit face justement à la répression des libertés associatives, le recul de la subvention, les coupes budgétaires à foison, et c'est pas fini, puisque on a des coupes monstrueuses qui s'annoncent en plus de celles qui ont déjà eu lieu. Donc, face à tout ça, les associations se tournent plutôt vers du privé, donc vers la philanthropie, vers le mécénat, vers le don, vers l'autofinancement, donc développent des services payants, donc développant des services payants éloigne tout un tas de publics des associations, puis marchandisent leurs services, et puis en se tournant vers le privé, vont vers la philanthropie, le mécénat. Mais ce qu'on voit quand on regarde à nouveau les chiffres de Viviane Chernonog, c'est que dons et mécénat, depuis 20 ans, se maintiennent en dessous de 5% de la part dans les budgets associatifs. Donc c'est une chimère de penser que le privé va se substituer au public. Donc comment on fait pour reprendre la bataille de l'argent public ? Nous, on s'appuie beaucoup sur le rapport du CESE qui est sorti au mois de mai dernier, le CESE étant le Conseil économique, social et environnemental, la troisième chambre de l'État, et qui a sorti un avis en mai dernier qui s'appelle « Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique ». Et qui appelle à augmenter les subventions aux associations, inscrire la subvention comme le mode de financement principal des associations, mais aussi, et ça on essaye aussi de le réfléchir dans ce deuxième rapport, repenser la façon distribuer cet argent public pour le rendre plus démocratique, essayer de le sortir du clientélisme partisan ou de l'arbitraire politique, et essayer de construire peut-être des commissions mixtes, de penser une autre façon de redistribuer cet argent public. Tout ça pour garantir la fonction d'interpellation des associations, qui est une fonction centrale dans notre démocratie, pour permettre la garantie de cette fonction-là.
C'est que j'ai constaté, et qui est tout à fait, qui illustre tout à fait ce que nous disons, c'est que progressivement, la disponibilité à être autant qu'association dans des espaces de rencontre ou de co-construction avec d'autres associations autour des thématiques, pas forcément que de la contestation, mais de la co-construction, des idées autour de la pédagogie ou sur l'écologie ou sur n'importe quoi. Cette tendance et cette disponibilité commençaient à s'amenuiser jusqu'à presque disparaître. Et au fur et à mesure, de l'autre côté, commencer à augmenter une fragilisation et une urgence permanente de l'association qui était de plus en plus dans la survie avec tous les mécanismes que nous avons décrits. Et du coup, il y a beaucoup plus maintenant un isolement à l'intérieur du tissu associatif qui est frappant, une absence presque d'espace de croisement. Ça, c'est aussi ce que produit cette vague de pensée libérale, etc. C'est chacun pour sa bannière, sa petite association, l'autre est concurrent, s'il crève, c'est qu'il a mal géré, il a fait des choses, moi je sais faire, donc, et ça transforme énormément finalement une puissance collective interassociative. Et du coup, j'ai trouvé que les espaces institutionnels ont commencé depuis un certain temps à remplir de manière très largement fictive avec des espaces de participation qui étaient managés par la ville, qui souvent ne donnait pas grand chose. Souvent c'était, à mon sens, d'autres manières d'être, de récupérer de l'intelligence un peu collective des associations. L'isolement est vraiment empêche de s'imaginer plus grand que soi-même pour pouvoir travailler des logiques d'interpellation, des logiques de co-construction, etc. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faudrait peut-être regagner petit à petit, mais j'ai vu, il y avait un webinaire hier ou avant-hier sur, c'était avec l'Institut Linsky, oui. Et d'imaginer un fonds pour l'interpellation afin de donner un peu des bulles, un peu de respiration quand même pour l'autre qui est au quotidien dans une lutte permanente de survie pour pouvoir perdre entre guillemets du temps pour discuter, construire, etc. J'ai découvert il y a peu des travaux d'un biologiste qui s'appelle Olivier Amand et qui, lui, à travers donc ses travaux sur le vivant, les plantes, etc., a développé toute une vision contre le culte de la performance pour dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous mène droit au chaos, à la défragmentation complètement de tout ce qui est humain, qui nous sort aussi de cette vision anthropocentrée, parce que depuis tout le temps, on parle que de l'être humain. Et il oppose un concept que je trouve extraordinaire et qui nous va comme un gant pour le monde associatif, que c'est celui de la robustesse. En disant, plutôt que d'essayer d'être complètement un malade de la performance, essayons de construire des structures robustes. Et pour lui, tout le monde vivant, les plantes, les arbres, etc., c'est un monde robuste, c'est-à-dire c'est un monde qui est non performant, qui utilise ses ressources à 10 ou 15%, qui gaspille beaucoup des ressources environnantes, qui perd beaucoup de temps, qui revient, qui fait des aléas, etc. Et à un moment, il parle du monde associatif, Olivier Amand, en disant c'est un monde qui est de fait un monde robuste, et donc un monde qui peut nous apprendre et à être un miroir pour demain. Et je trouve que ça, c'est donc le travail que j'ai fait là-dessus, c'est essayer de croiser sa pensée avec un regard sur le monde associatif. Et je trouve que ça ouvre des perspectives. Une fois qu'on a posé la puissance et l'analyse que le CAC nous a éclairé autour de cette vague de financiarisation, marchandisation, éventuellement pour après.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques à rajouter ?
Il y a peut-être un point qui est particulièrement important à apporter ici dans ce podcast de Peuple et Culture, puisqu'on est allé voir chez nos voisins belges le financement qu'ils ont, eux, de l'éducation permanente. Et donc, c'est donc un petit village gaulois, on peut dire, en Belgique, puisque la Belgique est, elle aussi, traversée par ces logiques de marchandisation et de financiarisation de manière extrêmement forte, puisqu'ils viennent de perdre l'équivalent de leur loi 1901, qui est la loi 1921, et que les associations sont rentrées dans le code des sociétés, des entreprises, enfin voilà, donc ça pose plein de problèmes. Mais il y a un petit espace qui est en Belgique francophone, en Wallonie et Bruxelles francophone, où il y a un décret qui finance les associations d'éducation permanente de manière pérenne, sur du long terme et sur du fonctionnement, où il est écrit dans son article 1 « Le développement des associations d'éducation permanente doit viser l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits civils et politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics. » Et je trouve que, voilà, on voit que, en fait, s'il y a une volonté politique, s'il y a des rapports de force assez puissants, on peut construire d'autres manières de faire. Et bon, on a plein d'exemples. Le deuxième exemple sur lequel on s'appuie, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui se rappelle de la sécurité sociale juste après-guerre, où les communistes étaient très puissants et armés, et où on a réussi à construire un système qui a sorti la santé des logiques de marché. Et c'était pas rien. C'est quand même quelque chose, bon, qui a été ensuite détricoté à loisir et jusqu'à ce qu'aujourd'hui on voit où on en est. Mais en tout cas, on a des manières de faire autrement. Ils existent. Il ne s'agit que de volonté politique et de rapport de force. Donc je pense qu'on peut aussi collectivement porter d'autres propositions. On a du déjà là, et effectivement on a en plus voilà tous ces éléments comme ce que tu viens de dire sur ces réflexions, ces concepts de robustesse dont on parle aussi dans le deuxième rapport, parce que Olivier Hamant parle d'un tissu des anti-héros, justement en parlant des associations, et qui tissent ce réseau qui est un réseau de la robustesse et de la lenteur, parce qu'il y a aussi toute la question de l'accélération du temps qui est extrêmement délétère pour nous. Tout ça, il y a du déjà là partout, il suffirait d'avoir une vraie volonté politique. Bon, on n'y est pas du tout, hein, d'accord, on n'y est pas du tout. Mais en tout cas, les choses sont déjà là.
Merci à vous vraiment pour votre participation. Juste avant de clore le podcast, je voulais savoir si vous auriez en tête des ressources, des choses que vous avez lues ou entendues et que vous aimeriez partager aux auditeurs à ce sujet, sur la vie associative en général, sur les libertés associatives ou même plus globalement, des choses que vous avez envie de partager.
Moi, je voudrais juste, je l'ai amené, je viens juste d'en parler, d'Olivier Hamant. Il y a un petit fascicule qui s'appelle « Antidote au culte de la performance ». Qui résume l'ensemble de sa pensée et on peut voir les croisements qu'on peut avoir avec notre monde associatif.
Moi, je peux vous conseiller de regarder un film qui est disponible sur Internet, qui s'appelle « Les associations qui se tiennent sages » et qui parle des libertés associatives avec des exemples et montrer aussi le système d'autodéfense qui a été mis en place par les associations, dont par le collectif des associations citoyennes. Et à ce titre, juste dire aussi que notre collectif appelle à des soulèvements associatifs pour justement rendre visibles les effets de ces coupes budgétaires, de ces attaques politiques, avec ce slogan « Une société sans association, c'est une société en morceaux. »
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore pour votre participation. Merci encore à Marianne et Nikos pour leur participation à cet épisode portant sur les libertés associatives, l'évolution du monde associatif et les perspectives futures pour la défense de ces libertés. Et vous, chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Liée.